Bonjour Monseigneur Echène.
Bonjour.
Avec vous pendant ce mois de juin, nous prenons le temps de réfléchir et de comprendre ce que peut être une église pauvre, comme le pape François l'appelle de ses voeux. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ce qui peut nous faire dire que oui, malgré ses richesses apparentes, l'église de France est pauvre. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, notre église est toujours en train de courir après des bénévoles, de courir après des dons, de courir après des vocations. Pourtant, elle maintient 104 diocèses et autant de structures. Pourquoi?
Alors, moi, ça ne me choque pas fondamentalement la question du nombre de diocèses, parce que l'idée qu'il y a derrière le maintien de ces diocèses, qui sont d'ailleurs moins nombreux qu'ils ne l'étaient au Moyen-Âge, d'ailleurs dans le diocèse qui est le mien, il y a trois titres. Il y a titre de Pamiers, Couserans et Mirepoix, parce qu'il y avait cet héritage des petits diocèses du Moyen-Âge. Mais l'idée d'un diocèse à taille humaine, c'est l'idée que le pasteur du troupeau n'est pas trop éloigné des brebis. Alors, il ne s'agit pas que le pasteur soit riche, mais il s'agit qu'il soit proche. Donc effectivement, sans doute qu'on aura à étudier des sortes d'économies d'échelle ou des sortes de mise en commun de certains moyens entre des diocèses français, qui ne pourront, certains d'entre eux, alors ce sera le cas du diocèse de Pamiers, je ne sais pas, mais ne pourront peut-être pas vivre ou réussir à faire face à leurs responsabilités sans le soutien de diocèses un peu mieux dotés économiquement. Mais est-ce qu'ils devront pour autant perdre leur autonomie pastorale ou leur pasteur propre? J'en suis pas certain. Un peu comme dans nos diocèses, certaines paroisses ne sont pas en capacité de faire face à leurs charges par elles-mêmes, mais malgré tout, parfois, elles gardent un curé, parce que la présence proche de ce pasteur est utile pour l'annonce de l'Évangile. Donc la question du nombre des diocèses, pour moi, n'est pas une préoccupation première, au moins pour aujourd'hui. Une préoccupation première, ce serait la question de la solidarité entre des diocèses plus riches et des diocèses plus pauvres, alors riches en ressources économiques ou aux ressources humaines. C'est vrai qu'est-ce qu'on pourra accepter longtemps que certains diocèses n'aient pas de vocation depuis 20 ou 30 ans, alors que toutes seraient regroupées dans des bassins de population plus importants? Est-ce qu'on n'aura pas inventé des solidarités en termes vocationnels aussi? Ça se vit déjà d'ailleurs dans certains diocèses. Il y a à Paris par exemple la fraternité des prêtres pour la ville, des prêtres donc de Paris, du diocèse de Paris intramuros, qui acceptent de se rendre disponibles pour aller au-delà du périphérique, donc ou des prêtres, comme ça c'est toujours rencontrés dans l'Église, qui partent pour des missions tout en étant liés à un diocèse, des missions Fidei Donum à l'étranger ou dans des diocèses plus pauvres. Donc ces questions-là, je pense qu'il faut vraiment se les poser, mais la question de la réduction du nombre de diocèses n'est pas urgente, me semble-t-il.
En tout cas, l'Église a encore un patrimoine immobilier qui est considérable. On se souvient de la ministre Cécile Duflot qui imaginait il y a quelques années de les réquisitionner pour héberger des pauvres. Est-ce que c'est réaliste?
Alors, la question peut se poser. Le patrimoine, enfin pour les diocèses que je connais, dans la mesure où il y a quand même des difficultés économiques assez sérieuses dans bien des diocèses, donc une manière d'équilibrer le fonctionnement avec des ressources exceptionnelles, qui sont soit des ventes immobilières, soit des legs, le patrimoine diminue aussi peu à peu. Donc le patrimoine disponible pour les activités pastorales ou même pour des réalités de solidarité vis-à-vis des plus fragiles ou des plus pauvres n'est pas si grand qu'on l'imagine parfois, au moins dans les diocèses dans lesquels j'ai été en responsabilité. Alors est-ce que dans des grandes villes c'est plus important? Quand on parle du patrimoine de l'Église dans une ville comme Paris, on fait allusion aussi pas seulement aux diocèses mais aux congrégations religieuses. Donc des solutions, d'ailleurs elles s'étudient, hein. Moi j'ai souvenir d'avoir accueilli dans un presbytère qui n'était pas utilisé parce qu'on n'avait plus de prêtres à y mettre, des familles roms et qui ont été hébergées moyennant une convention claire avec un collectif associatif. Donc la question du patrimoine immobilier n'est pas une question en elle-même qui peut résoudre le problème du logement, parce que les personnes sans domicile, il faut aussi des structures pour les accompagner. Des associations comme Habitat Humanisme vivent ça de manière très intéressante. À chaque fois qu'il y a un projet immobilier, donc pour un accueil solidaire, il y a toujours un groupe de personnes qui accomplira un suivi, parce qu'il ne suffit pas de poser des personnes quelque part, leur dire désormais vous logez là, il faut qu'il y ait un véritable accompagnement. Donc il faut réfléchir de manière globale à tout cela, mais bon que certains ministres adressent des interpellations à des institutions comme l'Église, pourquoi pas, ça nous aide à réfléchir, à nous remettre en cause, certaines fois c'est utile.
Elle avait bien réagi dans mon souvenir d'ailleurs, l'institution. Mais c'est vrai que cette question du patrimoine est... reste évidemment complexe puisque détenir un patrimoine, c'est l'entretenir. L'entretenir, ce sont des revenus nécessaires à cet entretien et qui ne sont pas toujours forcément évidents à trouver. Donc il y a des diocèses qui un jour ont imaginé que la solution c'était de tout vendre. C'est pas forcément non plus la bonne solution parce qu'après on se retrouve avec des frais de location. Enfin, c'est vrai que c'est un... C'est
oui.
Insoluble.
Cette question de la gestion du patrimoine immobilier, c'est complexe. Il faut essayer de le faire de manière rationnelle, éthique, en vue du bien. Bien sûr, notre objectif, c'est pas de gérer le patrimoine pour accumuler un maximum de ressources. Tout cela, c'est pour nous,
non,
doit être
c'est
orienté sur l'annonce de l'Évangile.
C'est bien fini, ça, je
oui.
pense. Hein.
Mais ça, c'est fini depuis
oui,
longtemps.
Oui.
Et en tout cas, c'est contrôlé. Aujourd'hui, les associations cultuelles, que sont les associations diocésaines, doivent rendre des comptes très précis à l'administration. Donc on est très suivi quand même en la matière. Et il peut y avoir occasionnellement quelques dérapages, mais c'est généralement très limité.
Bon, je vais parler un petit peu chiffres, parce que c'est vrai qu'essayons d'être un petit peu factuel. Baptême, mariage, ordination, c'est vrai qu'ils sont en chute depuis des années, j'en donne quelques-uns. 280 000 baptêmes aujourd'hui contre près de 500 000 il y a 30 ans. 15 000 prêtres en 2015 en France, contre 30 000 en 1995. Et sur ces 15 000 prêtres, la moitié a plus de 75 ans. Voilà, donc depuis plusieurs décennies, on peut dire que c'est un peu une gestion de la décroissance que l'Église doit inventer tous les jours. Ce n'est pas forcément la plus simple.
Oui, on est sollicité par les événements, par la situation qui nous est donnée, qu'on n'a pas choisie, mais qui est la réalité d'aujourd'hui, à vivre autrement l'annonce de l'Évangile qu'on ne le faisait par le passé. Autrefois, quand il s'agissait d'annoncer l'Évangile dans un village, bon, il suffisait que l'évêque nomme un prêtre, et puis éventuellement achète une maison du village qui deviendrait le presbytère, si le presbytère avait disparu entre-temps. Et puis on gérait comme cela l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on est invité. Le cardinal 23 disait cela quand il était évêque à l'époque du diocèse de Tours. Il disait... voilà, autrefois on arrivait dans un village rural, il a eu l'occasion donc de connaître dans ce diocèse des réalités rurales, on arrivait comme famille chrétienne et l'Église préexistait à notre venue et on choisissait de s'associer ou de ne pas s'associer à la messe du dimanche, à la vie de la communauté chrétienne locale. Il disait aujourd'hui, comme chrétien, on arrive dans un village et la communauté chrétienne, si on ne la construit pas nous-mêmes, elle n'existera pas. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique dans laquelle les chrétiens, au titre de leur baptême, plutôt que d'attendre que l'évêque leur nomme un prêtre, qu'il n'est pas en capacité de leur nommer d'ailleurs parce que les séminaires ne sont pas pleins, plutôt que d'attendre que l'évêque leur nomme un prêtre, que les chrétiens puissent se dire « on est quelques familles chrétiennes, on a le souci de catéchiser nos enfants, de témoigner d'une présence chrétienne dans ce lieu en donnant le témoignage d'une communauté priante, d'être attentif aux plus petits ensemble et aux plus pauvres, aux familles dans le deuil. Alors nous allons nous organiser pour donner dans ce village le témoignage d'une communauté chrétienne présente. Partout vous serez quelques-uns réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » Et que l'évêque ait ou pas un prêtre à nous nommer. Alors bien sûr, ce que nous allons essayer de vivre localement, en termes de vie chrétienne, nous n'allons pas le vivre de manière toute indépendante et autonome. Nous allons aussi nous mettre en lien avec le curé le plus proche, et qui souvent aura la responsabilité de l'accompagnement de cette communauté. Mais plutôt que de demander à l'autorité centrale de nous envoyer quelqu'un, nous allons nous dire nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, annoncer l'évangile dans notre lieu de vie, c'est notre responsabilité. Et nous aurons besoin de prêtres, de ministres ordonnés pour l'exercer au mieux, mais nous devons retenir que c'est notre responsabilité au titre de notre baptême. Nous sommes disciples de Jésus.
En fait, cette pauvreté nous oblige à ne plus être des simples récipients de la parole et des simples récipients des sacrements, nous oblige à être acteur, on n'a plus le choix aujourd'hui.
Oui.
Quand on est chrétien en France, on doit être acteur.
C'est typiquement cela. On ne peut plus être chrétien simplement suiveur d'une dynamique qui ne dépend pas de nous et à laquelle on choisit ou pas de s'associer en fonction des moments, mais on doit vraiment être acteur de la vie évangélique dans notre lieu de vie.
Alors, pauvreté des clercs aussi, même si contrairement aux moines, vous ne faites pas vœu de pauvreté au moment de votre ordination. Monseigneur Echen, de quoi est-ce que vous vivez ?
Alors, je vis d'une indemnité qui m'est versée chaque mois, qui est la même d'ailleurs que celle qu'on accorde à tous les prêtres. Donc, qui est calculée un peu comme dans tous les diocèses, l'indemnité qui est accordée aux prêtres, elle est indexée en gros sur le SMIC, sur le salaire minimum dans notre société. Donc, on vit peu ou prou au niveau des gens qui, dans notre société, ont un revenu modeste. Alors souvent on a des conditions de logement qui sont assez honorables parce que les presbytères ou les lieux de vie sont généralement assez spacieux pour des célibataires que nous sommes, mais on essaie de partager la condition de ceux et celles qui dans notre société vivent avec des moyens modestes. Bon, mais c'est pas du tout une plainte, ça nous permet, comme on le disait, d'être en harmonie un peu avec l'Évangile dont nous sommes les témoins, dont nous cherchons à être les témoins.
Merci, Monseigneur Echen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. La semaine prochaine, nous plongerons davantage dans la réalité de votre diocèse de l'Ariège.
Merci beaucoup.